monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous dans Le Monde aujourd'hui, en ce vendredi 10 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique. À la une de l'actualité ce soir. Au Bénin, l'opposante Rekia Madougou, jugée aujourd'hui pour financement du terrorisme. Une mosquée attaquée par des hommes armés au Nigeria. Bilan, au moins 9 fidèles tués. Fin aujourd'hui du sommet américain sur la démocratie. Washington a mis notamment l'accent sur l'intégrité électorale et la lutte contre les régimes autoritaires. Drame de l'immigration clandestine au Mexique. Au moins 53 migrants ont péri dans l'accident d'un camion surchargé. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. Au Bénin, l'opposante et ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou, arrêtée peu avant l'élection présidentielle d'avril dernier, est jugée aujourd'hui pour financement du terrorisme à Porte-Nouveau, la capitale, 3 jours après la condamnation à 10 ans de prison d'un autre opposant. Compte rendu de Ginette Fleur Adande, notre correspondante au Bénin.
Arrêtée le 3 mars dernier après un meeting politique à Porto-Novo, la capitale du Bénin, Rekia Madougou aura passé 9 mois en détention avant le procès qui a démarré ce jeudi. La criette avait annoncé qu'elle dirigeait des opérations pour semer la terreur et mettre à mal le processus électoral qui était en cours et auquel elle devrait participer si elle n'avait pas été recalée. Ce jeudi matin, elle est apparue sereine et gonflée d'espoir quant à l'issue du procès. Mais quelques minutes après le démarrage du procès, l'un de ses avocats, le français Antoine Veille, enlève sa toge et se dit incapable de poursuivre un procès tracé d'avance. Devant la presse, il dénonce une grande injustice.
J'ai le sentiment qu'effectivement, elle n'a pas devant elle une juridiction indépendante et impartiale. Ma cliente est assistée de confrères internes et béninois qui vont la défendre sur le fond du dossier puisque la criette n'a pas fait droit à nos moyens. Et deuxièmement, ma cliente sait qu'on la soutient indépendamment de notre présence dans ce processus. Ce qu'on ne souhaitait pas, c'est cautionner un processus judiciaire qui n'en est pas un de par notre présence. Maintenant, notre cliente sait notre indéfectible soutien à ses côtés et le fait que nous continuerons, tant qu'elle est incarcérée, à dénoncer ce qui relève d'une profonde injustice.
Le procès de l'ancienne ministre s'ouvre alors que son allié politique, Joël Aïvo, a écopé d'une peine d'emprisonnement de 10 ans à l'issue d'un procès qui a eu lieu en début de semaine. De Cotonou, Ginette Fleur Adande pour VOA Afrique.
Attaque contre une mosquée dans le centre du Nigeria. Des hommes armés ont tué 9 fidèles pendant la prière. Le point avec Abdourahman Zia.
Selon le porte-parole de la police locale, Monde Bala Kourias, des hommes lourdement armés et à moto ont envahi le village isolé de Baré dans l'état du Niger. Ils ont ouvert le feu sur une mosquée où les fidèles étaient en train de prier. Les assaillants ont tué 9 fidèles musulmans à l'intérieur de la mosquée et en ont blessé plusieurs, a-t-il ajouté. Mais selon un habitant du village, Amadou Amissou, 16 corps ont été retrouvés dans la mosquée. Une équipe composée de policiers et de membres d'un groupe d'autodéfense a été déployée dans la zone. Les motifs de cette attaque sont pour l'heure inconnus, mais des groupes criminels appelés localement bandits sévissent depuis des années dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où ils pillent et attaquent des villages. Ces bandes armées, connues pour agir pour des raisons financières plutôt qu'idéologiques, sont devenues plus violentes ces derniers mois.
En République démocratique du Congo, manifestation de journalistes à Bukavu aujourd'hui contre des violences policières. 9 journalistes avaient été blessés par des policiers jeudi dernier dans la ville. Leurs confrères ont fait entendre leur voix ce vendredi contre ces violences en réclamant des sanctions au cri de « Le journalisme n'est pas un crime ». Environ 200 personnes, reporters et militants des droits humains, ont défilé de l'hôtel de poste de Bukavu jusqu'au gouvernorat, avec un passage à l'Assemblée provinciale où un mémorandum a été déposé. Au Kenya, le vétéran de la politique Raila Odinga annonce sa candidature à la présidentielle de l'année prochaine. C'était lors d'un discours au stade Kasarani de Nairobi, devant des milliers de partisans, mais aussi des caciques du parti présidentiel. Le président Uhuru Kenyatta, de l'ethnie Kikuyu, dit lui apporter son soutien. Raila Odinga, 76 ans, de l'ethnie Luo, se portera candidat pour la cinquième fois en août prochain. Il a incarné pendant des décennies l'opposition avant de se rapprocher du pouvoir. Son père a longtemps été le vice-président de Jomo Kenyatta, le premier président kényan et père de l'actuel Uhuru Kenyatta. Une preuve de vaccination contre le Covid-19 est désormais obligatoire pour les voyageurs qui veulent se rendre au Ghana. À partir de ce dimanche minuit, les voyageurs devront présenter une preuve de vaccination totale, indique Patrick Kouma Abogiele, le directeur général des services sanitaires du Ghana. Seule exception, pendant 14 jours, les Ghanéens non vaccinés se trouvant à l'étranger et les résidents actuellement à l'extérieur du pays seront admis dans le pays. Cependant, ils seront vaccinés à leur arrivée à l'aéroport, ajoute Patrick Kouma Abogiele. Du côté de l'Afrique du Sud, une troisième dose du vaccin anti-Covid du laboratoire américain Pfizer sera administrée à partir de janvier prochain dans le pays où a été détecté le variant Omicron. Les premières personnes qui auront droit à la dose de rappel seront les plus de 60 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Fin aujourd'hui du sommet de deux jours sur la démocratie tenu à l'initiative du président américain Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche veut braquer les projecteurs sur l'intégrité électorale, la lutte contre les régimes autoritaires et le renforcement des médias indépendants. Les précisions avec John Lyndon.
Le président américain doit prononcer l'allocution de clôture cet après-midi. Au premier jour du sommet virtuel hier, Biden a annoncé son intention de dépenser jusqu'à 424 millions de dollars dans le monde pour soutenir les médias indépendants et la lutte contre la corruption. Il a appelé les participants à travailler avec lui pour inverser ce qu'il appelle une diminution alarmante de la démocratie dans le monde. Biden a souligné que même les États-Unis n'ont pas été à l'abri des tensions. Un message également repris par la vice-présidente Kamala Harris, qui a souligné que les lois anti-électorales que de nombreux États continuent d'adopter aux États-Unis font partie d'un effort intentionnel pour empêcher les Américains de participer à la démocratie. Les responsables chinois ont émis un flot de critiques à propos du sommet. Vladimir Poutine n'a fait aucun commentaire public sur ce sommet qui devrait être reconduit en personne l'an prochain.
Tragédie au Mexique, au moins 53 migrants en situation irrégulière, pour la plupart originaires du Guatemala d'après les autorités, ont été tués dans l'accident d'un camion surchargé de passagers. De nombreux autres ont été blessés. Davantage avec Mohamedou Oumfa.
L'accident a eu lieu dans l'état du Chiapas, porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Les migrants étaient entassés dans la remorque d'un camion, d'après les premières explications de la protection civile. Selon des témoins, le poids lourd s'est écrasé contre un mur à toute vitesse et s'est renversé. Jusqu'à 53 personnes sont mortes et 3 autres ont été gravement blessées, a indiqué dans un communiqué le parquet général mexicain. Le camion transportait plus de 100 personnes de diverses nationalités, a indiqué la Commission nationale des droits de l'homme à Mexico. La plupart des survivants sont originaires du Guatemala, a déclaré le directeur régional de la protection civile, Luis Manuel Garcia. Traditionnel couloir de passage, le Mexique est confronté cette année à des arrivées massives de migrants venus du Guatemala, du Honduras, du Salvador, de Haïti et même d'Afrique. Le transport en camion est l'une des méthodes les plus utilisées par les passeurs.
Victoire.
victoire majeure pour Washington dans sa bataille pour faire extrader Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks. La Haute Cour de Londres a annulé aujourd'hui une décision de première instance qui s'opposait à la remise aux autorités américaines de l'Australien âgé de 50 ans, invoquant le risque de suicide s'il était incarcéré aux États-Unis. Mais pour la Haute Cour, le gouvernement américain a fourni des assurances. Julian Assange entend toutefois former un recours auprès de la Cour suprême. Il a 14 jours pour le faire, mais la Cour suprême peut refuser de s'en saisir. En recevant le Nobel de la paix aujourd'hui, la journaliste philippine Maria Ressa a fait une virulente attaque contre les géants technologiques américains, coupables, selon elle, de laisser par cupidité se déverser une boue toxique sur les réseaux sociaux. Madame Ressa a reçu la prestigieuse récompense à l'hôtel de ville d'Oslo, conjointement avec le russe Dimitri Muratov, rédacteur en chef de Novaya Gazeta, rare journal encore indépendant dans un paysage médiatique largement mis au pas en Russie. Et voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un condensé des nouvelles économiques, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg ce soir.
À Madagascar, le président Andry Rajoel a procédé hier au lancement de la deuxième phase du projet de modernisation et d'extension du port de Tomazine, a-t-il annoncé sur Twitter. Cette seconde phase doit durer 4 ans et devrait permettre à la plateforme portuaire de traiter jusqu'à 1 million de containers par an. Le régulateur des télécoms au Sénégal a annoncé avoir prononcé des sanctions financières contre les trois principaux opérateurs, Orange, Free et Expresso, pour manquement dans la qualité du service. La Sonatel, filiale du groupe français Orange, écope d'une amende de 16,7 milliards de francs CFA hors taxes. Ces sanctions surviennent après une campagne de mesure de la qualité du service et de la couverture des réseaux 2G, 3G et 4G exploités par les opérateurs sur l'ensemble du territoire national entre les mois d'août et novembre. Ici aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'est voulu rassurant ce vendredi sur l'inflation qui a pourtant atteint en novembre son plus haut niveau en 39 ans, affirmant que la hausse des prix a commencé à ralentir. Le président américain a toutefois reconnu que cette baisse n'était pas aussi rapide que le gouvernement le souhaiterait.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est avec Bagassi Koura. Bonsoir.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. En football, la Supercoupe de la CAF se jouera le mercredi 22 décembre 2021 au stade Ahmad Bin Ali de Doha au Qatar. Confirmation donnée par la CAF et le comité d'organisation local du Qatar. Selon la CAF qui donne l'info, le coup d'envoi de cette rencontre aura lieu à 20h heure locale, soit 17h temps universel. Ce match unique opposera Al Ahly d'Égypte, vainqueur de la Ligue des Champions 2020-2021, au Raja Casablanca du Maroc, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Al Ahly est le tenant du titre de la Supercoupe de la CAF après avoir battu les Marocains de RS Bergane 2-0 à Doha, c'était le 28 mai 2021, pour le compte de l'édition précédente. Qu'en 2021, en janvier, le Cameroun publie la liste des joueurs présélectionnés pour cette compétition qu'elle organise du 9 janvier au 6 février. La présélection comprend 40 joueurs retenus par le sélectionneur Antonio Conceição. Selon Afrique Foot, on retrouve dans cette liste tous les cadres comme Onana, Toko Okambi, Aboubakar, Choupo-Moting, Ngadeu, Ngamaleu et Zambo Anguissa. Selon le site Afrique Foot, l'international français Ntep, plus apparu en sélection depuis 2 ans, et l'ancien Marseillais Nguyen, plus appelé depuis mars, signe aussi leur retour dans ce groupe élargi, tandis que 4 nouveaux joueurs, pour la plupart binationaux, intègrent la tanière. Au finish, le sélectionneur devrait retenir 28 joueurs. Les Lions Indomptables, faut-il le rappeler, affronteront le Cameroun, l'Éthiopie et le Cap-Vert dans le groupe A. Et puis enfin, en NBA, les Grizzlies de Memphis ont résisté jeudi soir au 100e triple-double de la carrière de LeBron James en s'imposant 108 à 95 en NBA face aux Los Angeles Lakers. tandis que les 76ers se sont fait surprendre par le Utah Jazz, vainqueur 118-96 à Philadelphie, grâce à un Rudy Gobert en grande forme. Malgré les 20 points, les 10 rebonds et les 10 passes décisives de King James, les Lakers, qui se maintiennent à la 6e place de la conférence Ouest, ont été étouffés par les Grizzlies, pourtant privés de leur meilleur marqueur, le meneur Ja Morant, et de leur défenseur Dillon Brooks. Anthony Davis a beau ajouter 22 points à ceux marqués par son coéquipier LeBron James, cela n'a pas suffi à compenser les 22 balles perdues par les Lakers.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Le conflit tigréen perdure alors que le gouvernement et les rebelles tigréens se livrent à une bataille de l'information. Le premier ministre Abiy Ahmed, qui a passé 2 semaines au front, est rentré à Addis Abeba après avoir humilié et redressé les rebelles, selon les termes du gouvernement. Les rebelles du TPLF ont démenti que l'armée éthiopienne avait repris l'avantage militaire. Pour faire le point sur la situation en Éthiopie, Abdourahman Dia a joint à Paris le spécialiste de la Corne de l'Afrique, Patrick Ferras.
Alors qu'est-ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui? C'est que les Tigréens sont en train de reconfigurer une 3e ou 4e fois leur force, si l'on peut dire, pour, afin de diminuer leur vulnérabilité. Elles sont, vous savez, étalées depuis Mekele jusqu'à Debreberan, donc il a fallu restructurer, recentrer un petit peu ce dispositif, parce que, bien sûr, les drones qui les attaquaient leur faisaient un petit peu de mal. Et donc, on voit les Tigréens remonter vers Mekele, plutôt, aujourd'hui. Et, bien sûr, les villes qu'ils abandonnent sont tout de suite reprises par les forces de défense nationale éthiopienne, mais sans combat, a priori, voilà. Donc vous voyez, c'est un jeu étrange que l'on a aujourd'hui, où on a l'impression qu'il y a un petit peu statu quo, où il n'y a pas d'énormes combats. On ne peut pas dire que la télévision éthiopienne ait montré de grands combats, si l'on peut dire. On a montré le Premier ministre se promenant dans la nature, mais on n'a pas vu le Premier ministre à la tête des combats et avec des résultats sur le terrain.
D'accord. Alors du côté du TPLF, on parle ouvertement du général Satkan Gebretensé, qui serait désormais aux commandes pour défaire une armée éthiopienne qu'il connaît très bien, pour avoir été au cœur de sa réforme et même, dit-on, de la chute d'Haïlé Mariam. Qui est cet homme?
Général Gebretensai, que j'ai rencontré à l'occasion de ma thèse, à 2 reprises, est un stratège militaire et un fin homme politique. Un fin homme politique. Hein. Donc il a un rôle particulier, je pense, dans ce conflit, parce qu'il est en même temps, je dirais, un petit peu le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées. Et parfois, vous entendez parler le général Warede Tesfaye Tadesse, qui est son numéro 2, qui est lui le vrai chef opérationnel sur le terrain. Mais comme les deux communiquent, parfois on a l'impression que l'un a remplacé l'autre ou que peut-être l'autre a été tué. Enfin non, je pense que Tsatkan a un rôle beaucoup plus politique. Alors Tsatkan, il a vaincu l'armée de Mengistu en 91, il rentre dans Addis Abeba à la tête de ses troupes, il reconfigure l'armée éthiopienne, il gagne la guerre contre l'Érythrée. Après, il était exclu de cette armée parce que Meles Zenawi ne voulait absolument pas que son armée aille jusqu'à Asmara. Tsatkan était plutôt dans la tendance d'aller à Asmara et puis défaire Issaïe Saperwaki. Bon, c'est la raison pour laquelle il était mis de côté, si l'on peut dire, qu'il a commencé une carrière dans un think tank et puis dans l'industrie aussi. Voilà. Et donc là, il est à la tête et je dirais que pour moi, il l'a toujours été. Et c'est un stratège. Donc, je pense que l'idée de réorganisation, de restructuration des troupes pour diminuer la vulnérabilité vient de lui et son chef opérationnel, Warede Tesfaye Tadesse, met en œuvre, si on peut dire, cette tactique et cette stratégie.
Alors, quelles sont les chances de négociation tant que chaque parti croit en sa victoire militaire?
Moi, je dirais que le conflit va durer encore longtemps. Il y aura peut-être quelques accalmies. On voit peut-être qu'aujourd'hui, il y a une accalmie. Est-ce que c'est ce que Abiy Ahmed a négocié ou a discuté un tout petit peu quand il était dans la nature, hors de sa primature, si l'on peut dire? Mais je pense qu'on ira quand même au combat et que ça continuera.
C'était Patrick Ferras, spécialiste de la Corne de l'Afrique, joint à Paris.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les affrontements entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, à cause de la pénurie d'eau, se sont intensifiés le long de la frontière nord du Cameroun avec le Tchad. D'après les responsables camerounais, des villages et des marchés ont été incendiés mercredi dernier et un violent conflit a contraint des milliers de personnes à fuir vers le Tchad voisin. Moki Edwin Kinzeka a fait ce reportage de Yaoundé au Cameroun. Le récit est de Ginny Kapumbu-Villa.
Un ministère des chefs traditionnels dit à quelques 120 personnes à Kousséri, à la frontière nord du Cameroun avec le Tchad, que sans paix il n'y aura pas de développement et que les communautés vont s'appauvrir et que les conflits armés n'apportent que la faim et la désolation. Le message est diffusé en boucle sur la télévision contrôlée nationale en langue Massa, Mousgoum et en arabe Choua. Les communautés Massa, Mousgoum et arabe Choua vivent dans le département du Logone et du Chari où se situe la ville de Kousséri. Des responsables gouvernementaux à Logone et Chari ont lancé des messages de paix après des affrontements entre agriculteurs, éleveurs de bétail et pêcheurs au sujet de l'eau qui a dégénéré en un conflit violent. Mercredi soir, les dirigeants communautaires ont déclaré que plusieurs villages ont été incendiés, des fermes détruites et des parties du plus grand marché de Kousséri incendiées. Plus de 40 personnes ont été tuées, 70 blessées et des milliers de civils ont traversé vers le Tchad pour se mettre en sécurité. Mahamat Abba est le sultan et chef traditionnel de Kousséri, a parlé à la VOA sur WhatsApp.
Je voudrais rappeler à toute la population du département du Logone et Chari que nous sommes appelés à vivre éternellement ensemble. Nous sommes liés par l'histoire. Nous sommes attachés par la chaleur humaine.
Mes frères arabes, Mousgoum et même les autres communautés, la paix vaut plus que tout. On ne peut pas bâtir dans la guerre.
Plus tôt cette semaine, les autorités camerounaises ont déclaré que des affrontements avaient éclaté entre éleveurs et pêcheurs au sujet de l'eau à Logone et Chari. Les éleveurs de bétail arabe Choua accusent les pêcheurs de Mousgoum de creuser des trous qui ont entraîné la mort de leurs vaches, moutons et ânes. Les pêcheurs du Mousgoum creusent les trous pour conserver l'eau et favoriser leur prise de poissons. Ils accusent les éleveurs arabes Choua de laisser leur bétail détruire les zones réservées à la pêche. Midji Yawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, où se trouvent Logone et Chari, il dit avoir dirigé mercredi soir une délégation de hauts responsables de l'État et de l'armée envoyée par le président Paul Biya à Logone et Chari. Selon lui, M. Biya a demandé à la délégation d'assurer un retour à la paix entre les communautés. Le Cameroun affirme que la désertification pousse également les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs à se déplacer vers des endroits où ils peuvent trouver de la nourriture et de l'eau, car le lac Tchad se rétrécit maintenant à vue d'œil. De nombreux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs s'installent le long du fleuve Logone pour survivre, ce qui entraîne de plus en plus de conflits récurrents et meurtriers.
En République démocratique du Congo, les femmes qui transforment les produits agricoles et les vendent à Kinshasa ont tenu hier une campagne de sensibilisation dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. En partenariat avec ONU Femmes, elles ont informé les commerçantes sur les normes juridiques liées à leurs activités. Les vendeuses se plaignent de payer beaucoup de taxes non déclarées et de devoir vendre dans la rue faute de place dans les marchés. Nathalie Barge a joint Clarisse Mongo, coordinatrice de Rofakin, un réseau de femmes entrepreneurs qui était chargée de sensibiliser sur le marché de pompage.
On leur a parlé des lois juridiques qui existent en rapport avec le commerce ou en rapport avec l'entrepreneuriat qu'une femme doit nécessairement obtenir. Et on leur a fait voir que au niveau de notre pays, il y a quand même beaucoup de lois, beaucoup de normes juridiques à remplir, ce qui aussi met la femme en difficulté. Et on a côtoyé différentes catégories de femmes dans le commerce, ceux qui vont vers les champs chercher à manger, ceux qui vont acheter la marchandise au niveau du port. Dès qu'ils viennent la marchandise de l'extérieur, de l'intérieur du pays, à travers différentes frontières, ainsi de suite, commencer à nous expliquer pour dire vraiment, nous payons nos taxes, différentes taxes dès le départ, à l'achat, en route, à l'arrivée, même pendant la vente. Nous voulons faire un plaidoyer pour essayer d'alléger toutes les lois pour que la femme ait quand même accès à beaucoup de choses. Les marchés, en général, ne sont pas organisés au niveau de la capitale. En majorité, elles sont au bord de route, exposées au danger, parce qu'au niveau du marché, il n'y a pas assez de tables et il manque des endroits pour exposer leurs denrées. Et les denrées sont exposées à même les sols, si bien que c'est sale. Alors, nous avons vraiment demandé à ceux que nous puissions porter leur voix pour qu'on essaie d'organiser des espaces, ce qui permettra à elles de contribuer aussi à l'économie du pays. S'il y a de l'espace, elles sont en train de payer les taxes. En retour, le gouvernement devait organiser aussi les espaces de vente.
Alors justement, vous-même, Clarisse Mongo, est-ce que vous pourriez nous parler de votre activité et nous dire quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez?
Comme sont répartis les femmes agriculteurs, nous sommes dans la transformation et à ceux qui sont dans le commerce. Au niveau de l'agriculture, les problèmes qui se posent, premièrement, c'est d'abord les risques de déserte agricole. Nous avons des étendues, nous avons des 100 hectares, 200 hectares, c'est vrai, vous allez cultiver, mais vous ne serez pas fait sortir les denrées alimentaires sur les centres de consommation. Et puis, dans la transformation, on a un problème avec la qualité. Il y a les étiquettes, on n'a pas d'emballage au niveau de Kinshasa. Il faut faire un effort pour aller trouver des emballages à l'extérieur du pays.
Clarisse Mongo, coordinatrice de Rofakin, le réseau des ONG de femmes autonomes de Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de kola avec une récolte d'environ 280 000 tonnes en 2019. Mais c'est une filière qui est confrontée à nombre de difficultés liées notamment à la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid-19. À Aniama, ville principale de la culture de noix de kola en Côte d'Ivoire, les cultivateurs parlent de leur calvaire, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Aïcha Diarra dans cette région.
Aniama n'a pas de champ de kola, mais les gens vont acheter dans la brousse, à Ogobine, Mang, à Bangourou, un peu partout. Ils viennent rassembler ici, parce qu'il y a des gros magasins ici, les gros exploitateurs sont assis ici.
D'où le nom de capitale de la kola pour cette ville qui en a fait sa spécialité commerciale. Moussa Traoré est commerçant de kola depuis 1978.
La kola de Côte d'Ivoire va au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Nigeria. Bon, le Niger prend un peu, mais on n'a pas de filière fixe. Ils prennent à côté, soit à Burkina ou bien au Nigeria là-bas. Sinon, on ne se le dit pas là-bas directement. Tout ce que la Guinée même produit, on n'en voit plus là. Dans les années 79-80, les Américains venaient acheter kola sec. Ils ont fait à peu près 2 ans sur ça. Après, on ne les voit plus.
Avec l'avènement du Covid-19 qui a occasionné la fermeture des frontières, ce trafic est devenu un véritable casse-tête pour les commerçants. Le trajet Côte d'Ivoire-Nigeria qui se faisait en 3 jours se fait aujourd'hui en 10. Issa Traoré du Prada est commerçant.
Mais dès que la frontière est fermée, là, nous, ça ne nous arrange pas. Même si tu as pris camion à quelques millions, là, ça augmente. Maintenant, nous passons vers le Boaké, Ouangoloudou, Burkina, Dorion, plus au Niger. Donc c'est trop fatigant. Il y a fait le vaccin de Covid à l'hôpital général d'Anyama. Il a fait à 2 reprises. Première dose, à la deuxième dose, il a tout fait. Mais quand je venais du Burkina, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit pourquoi le frontière n'est pas ouvert et que nous voyageons. J'ai dit mais nous sommes les commerçants. Nous passons ici plus de 2 ans, 3 ans. Nous passons ici à Ekoula. Ils m'ont fait payer. Il a payé une somme.
Assis sur un banc devant un grand magasin où sont stockés plusieurs sacs de cola, Seydou Koulibaly est magasinier de cola à Anyama.
Non, on ne peut pas compter sur ce qu'on consomme en Côte d'Ivoire ici. Mali. On est obligé de vendre à prix bas. Quand on vend à prix bas, ça veut dire que ça ne marche pas. Tu vois, ça là, c'est exposé comme ça. Ça, ça peut à peu près un an comme ça, ça ira. Si au moins les étrangers viennent là, ça ne peut pas faire un an ici. Au moins 6 mois, 5 mois, c'est fini. Pour la cas, c'est une nouvelle là, il y a tout le monde qui vit. Maintenant, ça devient ville là. Ce sont des Ghanéens, Nigériens, Sénégalais qui payent.
Principale activité de la ville d'Agnama, le mal-être de ce secteur a aujourd'hui un impact sur l'économie de la ville, à commencer par le secteur du transport qui représente sa deuxième grande activité. À chaque prix de cola, devant ces grands magasins, ce sont des dizaines de kilogrammes de cola qui sont jetés parce que pourris, brûlés ou durcis par le temps. Aïcha Diarra, de retour d'Agnama pour VOA Afrique.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction. Merci à Lionel Gaïma pour la mise en onde. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Je vous remercie, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.
Afrique, les infos.